Juste pour que cet esprit cabotin me quitte. Éternel notre Dieu, on veut te remercier pour cette matinée spéciale. Seigneur, dans une époque où les témoignages évangéliques sont tellement confus, tordus, je pense à cette hurluberlu qui nous annonçait la fin du monde, Seigneur. C'est une joie pour moi ce matin d'être en église avec des amis, de la famille, des invités qui vont entendre des beaux témoignages de conversion, des beaux témoignages de consécration, des témoignages de personnes qui ont décidé de s'attacher à toi, Seigneur. Alors, je te demande de bénir cette matinée, d'être avec chacun des détails, Seigneur, et surtout chacun des cœurs, autant ceux qui se font baptiser que les auditeurs chrétiens et non chrétiens. Viens, Seigneur Jésus, nous parler de toi ce matin. Et Seigneur, on te demande de bénir ce cours. Parle-nous de toi, de ton œuvre, de ta grâce, de ce merveilleux privilège de faire partie de la famille de Dieu ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. En voyant que j'ai des chats dans la gorge, je pense que je ne pousserai pas trop fort la chansonnette ce matin pour être pas pire tantôt, d'accord? Est-ce que vous m'entendez, Carole? Oui, OK. Alors, vous pouvez prendre les feuilles de notes sur les deux côtés. On commence, on a deux sujets à couvrir ce matin, l'adoption, la sanctification, qui sont toujours différents aspects d'une même réalité, notre conversion. Ah, s'il n'y en a plus là, il y en a peut-être là, j'espère. Non, c'est pas le même que la semaine dernière. Ah ben c'est possible. Moi puis les chiffres, là, fiez-vous pas à moi. Je fais ça toutes les semaines. D'accord, mais c'est à la page 3, c'est censé être marqué adoption et sanctification. Est-ce que c'est ça que vous avez?
Oui.
Merci, Danny. OK. Quels sont les privilèges liés à la qualité de membre de la famille de Dieu? Alors, une définition, l'adoption est un acte de Dieu par lequel il fait de nous des membres de sa famille. Ce qu'on est en train de voir à travers toutes ces semaines-là sur le salut, puisqu'on est sur le salut depuis un petit bout, ce que nous sommes en train de voir ensemble, c'est différents aspects du salut. Il y a vraiment une richesse, il y a une profondeur, il y a une richesse à retirer dans notre communion avec Dieu, de réaliser toutes les facettes de ça. D'accord? Et ce matin, on parle de l'adoption, l'idée que nous avons été intégrés à la famille de Dieu. Non seulement Dieu nous a pardonnés, non seulement nous avons été justifiés, nous avons une vie nouvelle, mais nous faisons partie d'une nouvelle famille aussi. Voici comment l'apôtre Jean le présente dans Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Toute cette notion de paternité, du fait qu'on est enfant de Dieu, est beaucoup plus présente, beaucoup plus riche dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Vraiment, on pense en deuxième vitesse lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament et qu'on parle de cette relation avec notre Père. Pardon. Alors, à tous ceux qui ont reçu Christ, la parole, la lumière, sont tous des synonymes, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et au contraire, le Nouveau Testament nous dit que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont fils de la rébellion, fils de la colère, parce qu'ils sont à l'extérieur de la famille de Dieu. D'accord? Et en ce qui a trait à Dieu, tu es avec ou tu es contre Dieu. Tu ne peux pas être neutre à l'égard de Dieu. Puis c'est la même réalité pour toutes les familles. Tu es un de mes enfants, tu fais partie de ma famille ou tu ne fais pas partie de ma famille. D'accord? C'est comme ça aussi avec Dieu. Alors, dans Éphésiens 2, 3, on lit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Alors, avant de devenir enfant de Dieu, on est fils de colère. Pourquoi est-ce qu'on est fils de colère? Parce qu'on est sous le jugement de Dieu. On ne fait pas partie de sa famille. D'accord? Fils de la rébellion, qui parle de notre nature, de notre cœur, avant d'être avec lui. Maintenant, quand je dis que l'idée que Dieu est notre Père, puis l'idée d'adoption est beaucoup plus forte dans le Nouveau Testament, ça ne veut pas dire qu'il y a une discontinuité, comme si c'était quelque chose de nouveau. En réalité, ce qui est en train de s'accomplir dans le Nouveau Testament, c'est vraiment ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Ainsi, Paul va dire que nous sommes les fils et les filles légitimes d'Abraham. Je ne pense pas qu'il y ait personne ici qui est de nationalité juive ou qui a du sang juif qui coule dans ses veines. Et pourtant, l'apôtre Paul dit aux païens, aux non-juifs, que s'ils ont placé leur foi en Jésus, ils sont les fils et les filles légitimes d'Abraham. Et donc, cette idée que nous allions faire partie de la famille de Dieu, nous allions être des fils d'Abraham, c'était déjà présent, c'est une famille que Dieu a adoptée. Alors, je vous lis Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je m'excuse, j'ai mélangé deux passages avec Galates 4, là. Mais donc, on voit cette idée que nous devenons enfants de Dieu, et ça, c'est l'accomplissement de la promesse qui était faite à Abraham. Nous sommes les fils et les filles dans la foi d'Abraham, et cette idée de faire partie de la famille était présente dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si vous prenez le temps de faire des recherches puis voir si des fois il est fait allusion à Dieu comme le Père d'Israël, il y en a des allusions. D'accord? Je donne quelques citations. Mais un des aspects du ministère de Jésus qui était choquant pour les Juifs au départ, c'est que lorsque Jésus parlait à Dieu, il y avait une espèce d'intimité qui était là. En fait, il l'appelait carrément son père, Abba, mon père. Puis il y avait cette intimité avec le Père qui était là, qui était troublante, qui était dérangeante pour les Juifs de l'époque. Et Jésus va vraiment nous faire découvrir la paternité de Dieu. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'apprécier ça dans notre contexte nord-américain. D'une part, le christianisme s'est répandu en Occident énormément, donc cette idée que Dieu est notre Père s'est répandue, mais nous, on est rendu plus loin encore. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, votre vision de Dieu, c'est que si Dieu n'est pas là, tout près de vous, à l'intérieur de vous, il ne mérite pas d'exister, ça finit là. Donc, c'est un Dieu hyper personnel, c'est même un Dieu sur mesure, c'est un Dieu que tu dessines avec une tablette à dessin, que tu conçois comme tu veux. Donc, cette idée d'intimité est très, très présente. Mais si vous allez en Orient, si vous parlez avec des musulmans, puis que vous commencez à parler de Dieu comme votre Père, avec toute cette intimité que Christ nous a révélée sur la relation qu'on peut avoir avec Dieu, eux autres ne comprennent pas ça. Parce que Dieu, c'est celui qui est... C'est l'autre. Il est saint. Il est grand. Il est miséricordieux, c'est vrai. Puis oui, dans un sens, c'est notre Père, mais jamais dans l'espèce d'intimité que Christ a avec le Père. D'accord? Alors, c'est ce qu'amène G.I. Packer. Je l'ai cité quelques fois dans les derniers mois dans l'Église, mais G.I. Packer dit le nom chrétien de Dieu, c'est Père. Je fais exprès pour le répéter. J'espère que ça va rentrer dans l'Église tranquillement. D'accord? Parce qu'on se sent très près de Christ dans son humanité. Facilement, on va se sentir près de lui, mais Christ est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler une nouvelle relation avec Dieu. Il est venu nous révéler un Père qui veut prendre soin de nous, qui veut nous aimer. Alors retenez cette formule-là, puis méditez sur ça. Le nom chrétien de Dieu, c'est Père. On a été adoptés en Jésus-Christ, et en même temps, Paul nous dit que tout ça va se compléter simplement lorsqu'on va aller dans la présence de Dieu. Alors, si vous lisez tout le Nouveau Testament, vous allez tomber sur des textes comme Romains 8, 23. À la page suivante, je suis à la page 4. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et donc, je fais partie de la famille de Dieu, j'ai été adopté, mais en même temps, j'attends aussi l'adoption de mon corps. Un corps nouveau, un corps glorifié. J'attends d'être dans la présence même de Dieu pour l'éternité. Alors, il y a un aspect de l'adoption, comme le salut, qui est fait puis qui va être complété lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. D'accord? L'adoption est distincte de la justification. J'aime bien comment est-ce que Grudem le résume ici. La régénération concerne notre vie spirituelle intérieure. La justification, notre position devant la loi de Dieu. Mais l'adoption a trait à notre relation avec Dieu en tant que notre Père. Régénération, justification, adoption, là, on peut continuer, sanctification, tout ça. C'est tous des aspects d'une même réalité qui se passe lorsque tu places ta foi en Christ. Les gens qui vont se faire baptiser tout à l'heure ont déjà tout vécu ça. Tous ces aspects-là. Maintenant, c'est une bonne distinction, ça clarifie. La régénération, c'est cette vie nouvelle. J'étais mort spirituellement, je suis vivant spirituellement, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en moi, il m'a donné un cœur nouveau. C'est ma régénération, c'est ma vie nouvelle. Ceci a été rendu possible simplement parce que j'ai été déclaré juste devant Dieu, j'ai été pardonné. C'est ma justification. Dieu m'a déclaré juste. C'est mon statut devant Dieu, devant la loi de Dieu. Maintenant, Dieu aurait pu s'arrêter là. Dieu aurait pu me donner une vie nouvelle, me justifier, puis me dire, c'est bien comme ça. Est-ce que les anges, est-ce qu'on a des indices bibliques que les anges, c'est des enfants de Dieu? On n'a pas d'indices bibliques, pourtant c'est des êtres vivants spirituellement. Ceux qui n'ont pas suivi le diable, c'est des êtres justes devant Dieu. Ils font pas partie de la famille de Dieu comme nous, on fait partie de la famille. C'est pas des co-héritiers de Christ. Christ les appelle pas ses frères. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais nulle part, on voit cette espèce de filiation où ils sont des frères de Christ. Fait que, voyez-vous, c'est des facettes différentes et c'est un privilège qui vient avec ça. C'est le privilège d'avoir été adopté et d'avoir Dieu pour Père avec tout ce que ça implique. Une erreur qu'on fait souvent, c'est que on va prendre les mauvais traits, admettons, de notre Père, puis on va les projeter sur Dieu, puis on va dire, ben, j'ai de la difficulté dans mon rapport avec Dieu le Père parce que mon Père était comme ci, comme ça. Non, si vous voulez être juste avec Dieu, prenez les meilleurs traits de votre Père, puis dites-vous qu'en ceci, il commençait à ressembler à Dieu. C'est tout. D'accord? Parce que c'est Dieu qui est Père. C'est Dieu qui est Père de l'univers, premièrement. C'est lui le Créateur. Mais c'est Dieu qui est votre Père. Et lui est parfait. Prenez les meilleurs traits que vous pouvez connaître de votre Père ou que vous pouvez être pour vos enfants comme Père. Vous commencez à peine à ressembler à Dieu dans sa paternité. D'accord? Est-ce que vous cherchez toujours, les gars, mon... François? Hein? François? J'ai toujours ça ici. Hein? Il y a encore un gris chemin ici. Je ne sais pas si vous pouvez... Peut-être vous ne l'entendez plus là-bas. Là. Mais moi, je l'ai ici dans le center fold. Les privilèges de l'adoption. C'est quoi les privilèges qui viennent avec l'adoption? Il y en a plusieurs. Il y en a qui vous apparaîtront peut-être pas comme des privilèges, mais en y méditant comme il faut, c'est vraiment des privilèges extraordinaires. Alors évidemment, on a une nouvelle relation avec Dieu. Dieu ne m'a pas juste justifié puis il m'a dit « Vas en paix ». Il m'a dit « Non, entre dans ma famille. J'ai une nouvelle relation avec Dieu. » Puis, deuxièmement, j'ai une nouvelle relation avec la famille de Dieu. Excusez. Juste quelques versets pour illustrer l'amour que Dieu nous porte depuis que nous faisons partie de sa famille. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, d'une part, les chrétiens, nous sommes des serviteurs de Christ. C'est vrai? On est des serviteurs de Dieu. Mais on n'est pas seulement des serviteurs de Dieu, on est des enfants de Dieu aussi. Romains 8, 15 et 16, je l'ai lu tout à l'heure, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Alors, ça change notre rapport. Hein? Mes enfants ont une certaine crainte de papa. Mais leur premier sentiment quand ils pensent à papa, c'est l'amour, c'est l'affection. Puis des fois même, il y a quelque chose qui va m'agacer, puis je vais les reprendre, puis ils me regardent. Puis ils disent, ils savent pas, là. T'es-tu fâché ou tu ris, là? Parce qu'ils sont habitués qu'on a une relation, on est proche, puis en même temps, à certains moments, je vais les reprendre. On n'est plus dans la crainte comme un serviteur ou comme un esclave à l'égard de Dieu. Notre rapport, notre relation. Vous n'entendez plus le grichement? Moi, je l'entends ici. Si tu viens, John, ici, tu vas l'entendre. Non, mais peut-être que là-bas, vous ne l'entendez plus. Non, mais honnêtement, si personne ne l'entend, moi, je peux vivre avec. Il y a toutes sortes de voix que j'entends que vous n'entendez jamais. Je vis bien avec. C'est une blague. Come on. OK. peux vivre avec ça? OK. OK, je vous lis un paragraphe au bas de la page 4. Moi, je dis que c'est mon micro, les gars. Que Dieu soit un Père dans sa relation avec nous et clairement manifeste dans ce qu'il nous aime, nous comprend. Je vais sauter le verset. Et pourvoit à nos besoins. De plus, il nous fait don de bonnes choses en grand nombre. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il nous donne plus particulièrement le Saint-Esprit qui nous console et nous équipe pour la vie chrétienne et le ministère. De plus, ces dons ne concernent pas seulement cette vie, mais ils nous réservent aussi un héritage dans les cieux du fait que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Paul dit, « Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. En notre qualité d'héritier, nous pouvons prétendre à un héritage éternel qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Pour nous qui sommes enfants du roi, membres de la famille royale, des princes et des princesses, qui régneront avec Christ dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu tient en réserve tous les privilèges et les bénédictions du ciel. Comme avant-goût de cet immense privilège, Dieu a envoyé des anges pour nous servir et exercer un ministère en notre faveur. » Ça devrait dessiner, ça devrait alimenter votre communion avec Dieu. Ça devrait nourrir votre vision de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, restez pas seulement avec un constat que « Non, c'est pas ça ma vision de Dieu. » Méditez sur ces choses-là. Arrêtez-vous, méditez sur ces choses-là. Prenez juste le passage, juste cette feuille-là, prenez-la pour votre culte personnel, une semaine, deux semaines. Juste méditez sur ces quelques textes. Puis allez adresser ces aspects de votre relation avec le Père. Évidemment, le Notre Père, c'est devenu une prière rituelle, ce que ça ne devait pas être, loin de là. Ça devait être une prière sentie, une prière qu'on ressent. Mais lorsqu'on comprend cette idée de notre adoption et de la paternité de Dieu, on comprend mieux que Jésus nous dit « Voici comment vous commencez à vous adresser à Dieu, notre Père qui est aux cieux. » Comme un enfant qui approche son papa, qui vient voir papa puis il dit « Papa, j'ai besoin que tu pourvoies mes besoins aujourd'hui. J'ai besoin que tu sois indulgent avec moi parce que tu sais que je ne suis pas toujours à la hauteur, papa. Puis moi, je vais être indulgent avec mes amis aussi. Je ne serai pas trop dur avec mes frères et sœurs aussi. Moi aussi, je vais leur pardonner parce qu'eux autres non plus ne sont pas parfaits. Mais je veux porter ton nom fièrement. Je veux voir ta gloire. Je veux te ressembler. Je veux être un fils digne de toi, papa, aujourd'hui. » Voyez-vous? Ça, c'est notre prière. C'est comme ça qu'on entre en communion avec Dieu. C'est ça que Jésus nous a enseigné. Et je suis au milieu de la page 5. « Comme tout père aimant, notre père sait aussi qu'il est nécessaire par moment de corriger son enfant pour le ramener à son bon sens et l'aider à faire les bons choix dans sa vie. Lorsque vous voyez des jeunes qui sont en train de déraper puis qui deviennent des petits bums, tout ça, est-ce que la pensée ne vous vient pas à l'esprit de dire « Mais ils sont où ses parents, cet enfant-là? » S'il y avait des parents qui étaient là puis qui l'aimaient puis qui voulaient prendre soin d'eux, puis on sait que ce n'est pas l'histoire de chaque enfant exactement, puis il y a des parents qui veulent être là puis ils n'arrivent pas à le faire, puis toutes sortes de choses. Mais vous comprenez, on voit des enfants où on se dit, mais il n'y a personne qui les a pris en main. Il n'y a personne qui était là pour leur dire, arrête de faire ça, tu te détruis, tu es en train de détruire ta vie. Mais votre Père céleste, lui, ne fera pas ça. Il va être là pour vous prendre en main lorsque vous dérapez. Il va être là pour vous corriger. Et les corrections de Dieu, ce sont des marques d'amour de la part de Dieu. Combien de fois j'ai dû expliquer à mon fils, à ma fille, je sais que c'est pas drôle la discussion qu'on a, puis je sais que tu trouves pas ça drôle les conséquences que tu vas avoir. Est-ce que tu comprends que c'est parce que je t'aime? Puis à chaque fois, mes enfants, à la fin de la conversation, comprennent. Puis ils disent, je sais, papa, c'est parce que tu m'aimes. Ils voudraient quand même que j'enlève la correction. J'enlève les conséquences. Mais ils savent que c'est par amour. Mais Dieu vous aime, Dieu va vous corriger. Dieu va vous corriger. Et nous, on a le réflexe lorsqu'on s'éloigne de Dieu, puis il y a certains péchés qu'on va tolérer dans notre vie. On est plutôt dans un rapport de OK, je regrette, tu peux-tu éviter que j'aie des conséquences? OK, je regrette, tu peux-tu juste comme me faire grâce? Je ne sais pas combien de fois j'ai parlé avec des gens, combien de fois moi-même j'ai exprimé ça à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai compris, je n'ai pas besoin de la conséquence. T'sais. Mais Dieu, il dit, non, Yannick, je t'aime. Je t'aime, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut plus que ça se passe pour ton bien. Et donc, le Père se comporte comme ça avec nous. Il va le faire à travers les circonstances de la vie. Il va le faire dans notre relation avec lui. Il va le faire à travers les frères et sœurs. Il va le faire à travers l'Église. Et lorsqu'un frère vient me voir et me dit, Yannick, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie puis j'aimerais s'en parler avec toi, c'est très probablement l'Esprit Saint qui l'a envoyé vers moi pour me reprendre, pour me corriger, pour me ramener dans le droit chemin parce qu'on est la famille de Dieu. D'accord? Ça va? Et évidemment, le paragraphe suivant, un des privilèges extraordinaires de l'adoption, c'est qu'on n'est pas des enfants uniques. On fait partie d'une famille. Et nos rapports avec la famille de Dieu sont différents. Nos rapports avec avec l'Église, avec la famille de Dieu, sont différents des rapports avec la famille naturelle. Ça ne brise pas ces liens-là. Lorsque ça brise ces liens-là, c'est des histoires tristes où des fois, comme chrétien, on décide de fuir un univers pour rentrer dans un autre parce que c'était trop douloureux d'être là. Puis là, on coupe les ponts et c'est vraiment une gaffe qu'on peut tous être tentés de faire au début de notre vie chrétienne. Ou bien c'est parce que la famille ne comprend pas notre conversion puis nous rejette dans la décision qu'on prend. Puis là, les ponts sont coupés. Donc ça peut arriver, mais le fait que je deviens un enfant de Dieu, j'entre dans cette nouvelle famille, n'a pas à briser mes relations. En général, ce que ça produit à moyen terme, c'est des relations meilleures, même avec la famille naturelle. Ce qui est mon histoire à moi, personnellement, dans mes rapports avec ma famille, dans mes rapports avec mon père, tout ça, c'est la grâce de l'Évangile a permis de construire quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Mais il reste quand même que lorsqu'on arrive dans la famille de Dieu, on découvre une autre famille, où les rapports sont autres. Les rapports sont autres parce que ce qui nous unit, c'est un moment de brisement intérieur où on est notre âme à nu devant Dieu, puis on accepte la grâce du Père. C'est ça qui nous unit, c'est l'Évangile, c'est ce moment où l'Évangile entre dans nos vies. Ben, à partir du moment où je m'en vais discuter avec un chrétien, avec une chrétienne, puis avec un frère, une sœur dans la foi, puis qu'on commence à partager des choses de ce niveau-là, c'est souvent 10 fois plus profond que toutes les discussions que j'ai eues avant avec d'autres personnes. On est à un autre niveau, là. On a laissé tomber les images, on a laissé tomber ce que j'essaie de paraître, les masques, tout est tombé. Je suis juste un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Puis mon frère me dit, Dieu t'aime, Dieu te pardonne. Oh, t'es rendu à un autre niveau. D'accord? Et ça, c'est une des grâces extraordinaires de l'adoption. C'est qu'on n'est pas des enfants uniques. Malheureusement, ceux qui ne saisissent pas l'importance de l'Église locale vivent sur la terre comme des fils et des filles uniques. De temps en temps, ils vont croiser. Hey, je pense qu'on est de la même famille. Hein? Ce serait le fun qu'on prenne un café à un moment donné ensemble. Mais ça s'arrête à peu près là. Ceux qui ne vivent pas l'Église locale ne vivront pas ce privilège-là de la même manière. Pourtant, c'est la réalité. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Et on le voit, les liens sont différents. Tu te retrouves à poser des actes de générosité envers des gens qui ne sont pas de ta famille naturelle, pratiquement avec le même zèle que tu ferais pour ta mère naturelle. D'accord? Et ces relations-là se tissent à travers les années. Et je vous dirais, lorsque dans l'Église, il y a des individus qui sont là dans l'Église locale, mais qui ne vivent pas ce que je suis en train de décrire là, vous êtes un petit peu comme le petit frère ou la petite sœur ou le grand frère, la grande sœur dans la famille qui vit un peu en retrait de la famille. Parce qu'il y a eu des chicanes dans la famille, puis il n'y a plus de relations, puis on se tient à l'écart. Puis on se tient à l'écart des bénédictions et des grâces. Puis des fois, ça peut durer pendant des années, ça. D'accord? Fait qu'il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche matin, ils se tiennent à l'écart de la famille. Ils ne sont pas en vraie communion avec la famille, ils ne sont pas en vraie relation, parce qu'il y a des chicanes pour régler. Tu sais, les vieilles chicanes de famille, hein, c'est ça. Dans l'église aussi, il y en a des chicanes de famille. Et l'Évangile doit venir opérer sa grâce pour que cette intimité qu'on retrouve autour de l'Évangile puisse être encore présente. Mais en même temps, à travers toutes ces chicanes-là, Christ est en train de nous transformer. On parlait tantôt de la sanctification. Prochain paragraphe. cette idée-là de famille de Dieu a été saisie très, très tôt par les chrétiens. C'est pas quelque chose qu'on s'est inventé pour essayer de se motiver à rester ensemble puis à avancer ensemble. C'était dans leur langage. Les premiers disciples de Christ ne se voyaient pas comme une confrérie, comme un club, comme un rassemblement d'admirateurs de Jésus-Christ. Je suis pas sarcastique, là, vous comprenez? Je sais pas, moi, tous ceux qui apprécient un philosophe quelconque ou tous ceux qui apprécient un fan club d'un artiste ou tous ceux qui sont en train de suivre Guillaume Lepage, c'est tous des fans de Guillaume Lepage. Oh, ouais, lui, écoute, il fait bouger les affaires, c'est génial. Ah, OK, toi, t'aimes Guillaume Lepage, moi, j'aime Guillaume Lepage. Ça veut pas dire qu'on est des frères et sœurs, quand même. Les premiers disciples de Christ ne se voyaient pas comme une confrérie seulement. Même si il y a le mot frère, ça ne veut pas dire famille, confrérie. Ils ne se voyaient pas comme une confrérie, ils ne se voyaient pas comme un club social, ils ne se voyaient pas comme un regroupement, ils se voyaient comme une famille. Ils ont été adoptés dans la famille de Dieu. Et c'est facile à voir, vous avez juste à commencer à lire le livre des Actes. Oh, vous trouvez des nouveaux rapports.